Et c'est pourquoi les prophètes sont d'abord des hommes qui décrivent les croyances. Que se passe-t-il? On dit que nous parlerions du Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, et il y a beaucoup à dire. Il y a deux livres là qui ne font qu'effleurer le sujet. Mais que s'est-il passé à ce moment-là, c'est-à-dire au cœur du Moyen-Âge, aux alentours de l'an 1000? Eh bien, aux alentours de l'an 1000, il s'est passé une chose absolument terrible qui marque toute notre littérature depuis 1000 ans. Je vais vous dire combien c'était terrible. Ça a été la disparition du Dieu amour. Ça a été la fin du temps. Quand on parle de prophétie à un public qui n'est pas habitué à ce travail, ou qui n'a pas même idée de ce que peut être ce travail, le plus difficile, c'est de faire admettre à quel point il ne s'agit pas d'une chose marginale, d'une chose bizarre, insolite, curieuse, mais qu'il s'agit de la science la plus répandue dans l'humanité depuis des millénaires. Qu'il s'agit de la chose auquel les hommes n'ont jamais cessé de croire, ces cycles temporels, ce sens réel du temps, du devenir vers le devenu. Ces formes temporelles par lesquelles passe l'humanité. Cela n'est jamais mis en doute dans l'humanité, sauf dans les périodes rationalistes, qui durent à peu près 2 siècles tous les 2000 ans. Ça a été mis en doute par Aristote et ses élèves au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il y a eu une période rationaliste qui a duré jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au renouveau des panthéons romains et autres. Vers la fin du 3e millénaire, nous savons qu'Akkad, nous avons des textes d'Akkad, qui était une région qui était justement, où est la guerre actuellement entre le Tigre et l'Euphrate à l'embouchure des deux grands fleuves. Eh bien, dans cette société très matérialiste, où on trouve des œuvres semblables ou des tronçons d'œuvres, des phrases qui échappent au cylindre, semblables à ce que nous décrivons aujourd'hui, c'est-à-dire si tu as un rhume, n'accuse pas Dieu, mais cherche quand tu as pris froid. Ou bien si ta femme te trompe, ne prie pas les dieux, mais aime-la mieux ou davantage. Enfin, question d'amour à l'époque, mais vous me comprenez. Bon. Ce sont les mêmes écrits que nous pourrions trouver aujourd'hui. Parce que c'était la même civilisation. C'était le même refus de Dieu, c'était le même refus de la réalité mythique. Mais cela dure 2 siècles sur 2000 ans. C'est tout. Pas plus, ni plus, ni moins. C'est le grand midi, à peu près. C'est le grand moment du jour. Si l'on considère l'année de 2160 ans comme un jour, c'est le moment où tout est clair, où tout est illuminé, où le soleil rayonne sur tout, et où par conséquent, les gens ont l'impression de posséder le monde, de bien voir les choses, se voir les choses, donc je suis le maître, je les connais, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de nuit, je n'ai plus peur. Les hommes ont peur la nuit, mais ils n'ont pas peur le jour. Ils ont peur quand ils se promènent dans la forêt, ils n'ont pas peur. Et l'humanité n'a pas peur dans ces midis de la grande année. À ce moment-là, elle rejette. Elle rejette toute cette réalité des formes temporelles, des cycles, des rythmes, des croyances. Mais dans tout le reste du temps, le doute il n'y a jamais de doute. Lorsque vous lisez tous les écrits, j'en dis bien tous les écrits qui ont paru, depuis la fin du rationalisme hellénistique, c'est-à-dire depuis le premier siècle avant Jésus-Christ, où reparaissent les ouvrages mythologiques de Ténius, de Varron, qui vont préparer le panthéon romain. Depuis ce moment-là, jusqu'au siècle Descartes, jusqu'au XVIIe, et même jusqu'au XVIIIe, il n'est pas une œuvre qui ne se situe dans le temps, comme nous ne pouvons plus le faire. Ce sont des œuvres qui disent le royaume de Dieu. Il s'agit du Dieu d'amour, n'est-ce pas là? Le temps du miracle, le temps de l'amour présent. Le temps du miracle où il n'y aura plus de médecins. Le temps du miracle où il n'y aura plus d'argent. Le temps du miracle où il n'y aura plus de société, où il n'y aura plus d'État, où il y aura une nouvelle formulation comparable à celle qui était la tribu pour les Juifs. Ce temps où les gens, pour que les gens soient heureux, pour qu'ils guérissent s'ils sont malades, il suffira qu'ils mangent l'hostie, qu'ils absorbent le pain du Christ, ou dans l'Inde qu'ils procèdent au grand repas bouddhique. Eh bien, ce royaume, il commence d'être attendu dès le 1er siècle. Il va être attendu le 1er, 2e, 3e siècle. Et il va être daté de plus en plus précisément. Et saint Augustin va dire que ce ne sera pas avant le 6e siècle qu'il sera là. Et on va attendre jusqu'au 6e, 7e, on va attendre ce temps d'amour. On va l'attendre uniquement. Tous les écrits de Byzance, tous les écrits des philosophes, les derniers philosophes romains. D'ailleurs, il y a de moins en moins de philosophes. Les gens écrivent de moins en moins, sauf des hymnes ou des cantiques, parce que ils vivent de plus en plus dans cet amour, ou dans le besoin, dans l'attente de cet amour, dans la préparation de cet amour. Et ce n'est pas en écrivant, bien sûr, ce n'est pas en philosophant qu'on peut y arriver. Et puis, bon, ça va disparaître. On ne trouve plus de telles œuvres. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'œuvres du tout. Il n'y a plus d'œuvres. Sauf quelques légendes, les vies des saints, les choses que les rationalistes aujourd'hui rejettent parce qu'ils ne peuvent rien trouver. Et puis parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecins. Du 7e au 12e siècle, vous n'avez pas de médecins. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de roi. Il y a des fiefs, il y a des villages qui se constituent sur le rivage autour d'un monastère, autour d'une église. Les gens vivent dans le couple de l'homme et de la femme, mais aussi le couple d'amis, couple de compagnons, comme les Juifs avaient vécu dans la tribu, dans la famille. Et tout le temps que ça dure, ce temps étrange, eh bien, on va soigner les moines qui remplacent les médecins, vont soigner les gens avec l'hostie. Ils vont guérir les gens avec l'hostie. Évidemment, on ne peut pas y croire aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est des blagues. Mais il n'y a que ça, il n'y a pas d'autres œuvres que ça. Et puis, alors à partir de l'an 1000, eh bien, on va voir un peu avant, même on voit à la fin du 8e, nous vivons la fin de la grande année, nous rentrons dans l'hiver, bientôt la Noël, bientôt la fin du temps. Et presque tous les écrits de cette époque, même un simple écrit juridique, non parce qu'il n'y a plus de jugement non plus, mais enfin, une lettre, une épître va commencer en ces derniers jours de l'année. Il ne s'agit pas de l'année de 360 ans, il s'agit de l'année de 2160 ans. Ces gens savent qu'ils vont vers la fin du temps. Et ils savent que la fin du temps, ça va être l'an 1000, ça va être certain. Glaber dira c'est 1033, 1000 ans après la crucifixion du Christ. Bon, on jouera de quelques dates, enfin, grossièrement, c'est l'an 1000. Et puis, eh bien. À l'an 1000, vers 1050, on va voir des tas de choses se passer. On va voir d'abord des famines. On va voir pour la première fois depuis 5 siècles, les pèlerins massacrés par les musulmans. Jusque-là, Charlemagne avait eu les clés de Jérusalem. Les chrétiens allaient librement à Jérusalem en pèlerinage. Brusquement, les musulmans accusent les chrétiens d'être des anthropophages, de se dévorer l'un l'autre. Et même des synodes chrétiens le disent. Et à ce moment-là, on va voir le roi et le pape se combattre. Le pape disant, mon pouvoir est plus grand, il est spirituel. L'empereur disant, c'est bien possible, mais c'est moi qui ai les armes, on ne peut faire rien. Parce que les papes, jusque-là, n'avaient pas d'armée. Donc c'est moi le plus puissant, puisque j'ai une armée, et ça sera la querelle d'investiture, lequel doit élire les évêques, etc. Et puis ça sera les souverains qui vont venir avec leur burg, avec leurs armes, qui vont se faire la guerre, ça va être le début des croisades, ça va être vraiment le temps où le souverain, le seigneur, va opprimer le serf, ou la femme qui était toute puissante, qui était toute puissante à un point qu'on ne peut même pas imaginer, puisque c'est elle, ce sont des femmes, Sainte Hildegarde, Sainte Brigitte, qui ont créé nos langues, qui ont créé le français, qui ont créé l'allemand moderne, mais qui l'ont créé lettre à lettre. Et mythologiquement, c'est-à-dire en donnant à chaque lettre sa place exacte, sa structure exacte. En dehors de ces périodes-là, on ne crée pas de langage. Quand on essaie de créer l'espéranto, ça ne donne rien. C'est pas en ces moments-là qu'on crée les langages. On les avait créés 2000 ans avant et 4000 ans avant, mais pas entre. Et puis, ça continue à s'effriter, ça continue à se détruire, et les œuvres commencent à dire ce tout temps d'amour qui est derrière nous. On ne l'attendait, on ne l'attend plus là, non, on sait qu'il est derrière, c'est fini. On n'attend plus, il n'y aura plus une seule œuvre qui attend le royaume de Dieu. C'est, il est derrière. Le roi Roman de la Rose regrettera le roman de Dieu. Le Pierre le Laboureur regrettera le temps d'amour. Et c'est à ce moment-là que les prophètes commencent à apparaître en grand nombre, comme ils étaient apparus 2000 ans avant, d'ailleurs, dans le royaume d'Israël dégénérant. Ils se savent au temps d'Élie, ils savent qu'ils renouvellent le temps d'Élie, 2500, mais ils n'ont jamais cessé de savoir. Quand Charlemagne est venu, les peuples ont dit, voilà le nouveau Moïse, parce que Moïse était venu 2150 ans avant, et Charlemagne fera à peu près le même acte que Moïse, c'est-à-dire qu'il rassemblera les structures déterminantes de l'amour. Quand tel pape fera telle chose, on dira, ah, il faut faire attention, si nous n'obéissons pas, nous allons être divisés comme Israël et Juda l'ont été il y a, toujours sous-entendu, 2160 ans. On n'a jamais cessé de douter qu'on vivait dans un cycle qui avait la même rigueur que le jour de 24 heures ou l'année ou le cycle solaire. Et les prophètes du Moyen-Âge notamment sont des hommes qui vont utiliser cette connaissance du temps de la manière la plus humaine et la plus simple d'ailleurs, qui est celle qu'on fait, si vous voulez, journellement. Je sais qu'aujourd'hui, répète le même rythme qu'hier. Je sais qu'aujourd'hui, le soleil a répandu sa lumière, et puis la lumière va se raréfier jusqu'au soir. Je sais donc sensiblement que je sortirai dans la journée gai, plein d'allure, d'entrain, et puis que je me fatiguerai à mesure que la journée passera. Je sais sensiblement que les besoins de mes besoins organiques feront que je devrais manger vers le milieu de la journée, manger le soir. Je sais qu'à un certain moment, je devrais aller me coucher. Je sais les grands rythmes. Mais évidemment, ces rythmes ne me disent pas si je vais manger aujourd'hui la même chose qu'hier. Ou si je vais rencontrer les mêmes personnes qu'hier. Il y a donc, ces rythmes n'empêchent pas la liberté, comme on le répète toujours, elles n'empêchent rien de la liberté humaine, au contraire, je dirais qu'elles favorisent la liberté dans la mesure où l'homme qui sait où et quand il se trouve, sait par suite comment il doit se comporter à tel moment.